Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ici ce soir. Il y a beaucoup de gens ici. Certains doivent rester debout. Et nous avons eu 3 services divins ce jour-là. Et si quelqu'un écoute cette bande, il voudra peut-être aussi entendre celle d'hier soir. C'est l'état actuel de mon ministère que le Seigneur m'a donné. Et les prédicateurs en particulier devraient l'entendre avant que les gens et les églises ne l'entendent. Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà parlé du sujet, le compte à rebours. L'église est prête à être enlevée. Et maintenant, nous voulons parler du thème « En sa présence ». Comme nous remercions Dieu de nous avoir donné le privilège d'entrer en sa présence. Tout d'abord, j'aimerais que vous lisiez avec moi des passages du prophète Ésaïe au chapitre 6. Nous connaissons tous le texte et nous savons qu'Ésaïe était l'un des principaux prophètes, l'un des grands prophètes de son temps. Il a terminé sa vie en étant scié, en rendant son témoignage et en étant porté par la puissance de Dieu. Ésaïe, chapitre 6, commençant par le verset 5. Alors je m'écriais, malheur à moi. Peut-être devrais-je commencer par le premier verset plutôt finalement. Je vous prie de m'excuser. Nous pourrions lire du premier au huitième verset environ. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Tout-Puissant assis sur un trône haut et élevé, tandis que ses pans remplissaient le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Et l'un criait sans cesse à l'autre ses paroles, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Alors les fondements du seuil des portes ont tremblé à cause de leur grand cri. Et la maison s'est remplie de fumée. Je m'écriais alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et maintenant, j'ai vu de mes yeux le roi, l'Éternel des armées. Alors l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il avait pris avec des pinces au sommet de l'autel. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Voici, après que celle-ci a touché tes lèvres, ta faute s'est retirée de toi et ton péché a été effacé. » Alors j'entendis la voix du Tout-Puissant qui disait, « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense que c'est l'un des passages les plus bouleversants de l'Écriture. En présence de Dieu, les gens se reconnaissent comme pécheurs. Nous pouvons nous sentir très bien quand nous sommes là et là et penser que nous sommes de bonnes personnes. Mais quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous voyons à quel point nous sommes petits. Je n'étais pas loin derrière avec un de mes amis que j'avais conduit à Christ, Birch Call, là dans le New Hampshire, un de mes amis qui va chasser avec moi. Et nous sommes allés là-bas pour voir les chutes d'eau. C'était une chose énorme. Nous devions aller loin de la route et nous avons vu l'eau verte et bleue jaillir et descendre sur les rochers. Et il a dit, « Oh Billy, Ici, un homme doit se sentir très petit. Et il a montré sur son doigt environ un demi-pouce. Et il a pensé que c'était là qu'il voyait la création de Dieu et qu'il se sentait si petit. Et l'homme qui a écrit « Comme tu es grand, comme tu es grand » ou « Quand quelqu'un lève les yeux vers les étoiles ». Et c'était une fois quand frère Fred et frère Wood et frère McKinley étaient là-bas en Arizona. Nous avons essayé de dire à quel point une étoile était proche de l'autre. Et la distance qu'elles avaient de nous, et nous avons pensé à quel point elles devaient être proches les unes des autres. Et puis, nous avons dû dire que ces étoiles étaient peut-être plus éloignées les unes des autres que nous, nous l'étions d'elles. Et alors, nous réalisons à quel point nous sommes petits et nous réalisons à quel point il est grand. Et pourtant, nous pouvons entrer en sa présence. Eh bien, cela a toujours eu un effet sur les gens lorsqu'ils entraient dans la présence de Dieu. J'ai vu le temps dans mon ministère. Quand vous voyez la présence de Dieu descendre dans le lieu, de sorte qu'une personne reconnaît que sa vie est révélée et que son péché est mentionné et que les actions immorales sont révélées, quelle sainte crainte vient sur eux. Certains se sont évanouis, d'autres sont tombés, d'autres encore ont couru vers l'autel pour implorer sa miséricorde avant que ce soit leur tour. Il y a quelque chose dans le fait d'entrer dans la présence de Dieu. Il fait en sorte que des choses se produisent. J'ai vu des gens entrer sur des lits. Tout à coup, je pense maintenant au Mexique, quand la mère espagnole là-bas, ou la mère mexicaine, a amené son enfant qui était mort. Plusieurs milliers de personnes ont vu l'enfant revivre. Peut-être 50 ou 70 000 personnes se sont rassemblées et ont vu cet enfant venir, revenir à la vie. Beaucoup se sont évanouis, d'autres ont levé les mains et remercié Dieu. Ils ont compris, un homme ne peut pas le faire. Ils étaient et l'ont reconnu en présence de Dieu qui seul peut faire ces choses. J'ai entendu des hommes divins parler. Il a été dit de Charles, des hommes de Dieu dont parler. Il a été dit de Charles Finney, un tout petit homme qui n'a jamais pesé plus de 110 livres, mais qui avait une manière puissante de parler. Et un jour, il testait l'acoustique d'un bâtiment. À l'époque, il n'y avait pas encore de haut-parleurs. À ce moment-là, un homme était en train de faire des réparations en haut de la tribune. Quand il a vu que des gens entraient, il est resté là, en haut de la tribune, sans bouger. Et Monsieur Finney y est allé avant le réveil pour essayer la salle et l'acoustique et comment la voix sonnait. Et il est allé à la tribune et a crié « Répentez-vous, sinon vous mourrez !» Et l'homme a eu une telle impression qu'il est tombé de l'estrade sur le sol et a crié. Et il a crié. Il a prêché avec tant de force à Boston autrefois, car aucune église ne pouvait contenir sa foule. Il parlait si puissamment. Il décrivait l'enfer de telle manière que les gens s'effondraient. D'autres s'effondraient dans la rue et criaient en présence de Dieu. C'était un prédicateur puissant. Les prédicateurs capables de proclamer la parole apportent la présence de Dieu sur la réunion, sur l'assemblée. Sinon, les gens ne reconnaîtront pas la présence de Dieu. Alors, quand le premier homme, dès qu'il a péché, a fauté et qu'il devait entrer dans la présence de Dieu, il n'a pas pu venir. Il s'est caché. Il a dû se cacher et a essayé de se couvrir lui-même de feuilles de figuier, car il savait que dans la présence de Dieu, qui a tout créé, il ne pourrait pas subsister. Telle était la réaction du premier homme après le premier péché. Le péché était entré dans sa vie. Il a essayé de se cacher. Voyez, à l'époque, le péché n'avait pas encore pris pied, n'avait pas encore pris racine, comme maintenant en l'homme. Il avait peur d'entrer dans la présence de son Créateur. Il ne voulait pas venir avant que le Seigneur Dieu ne l'appelle. Ne l'ait appelé. Nous pouvons revenir en arrière et passer en revue le verset 3 de la Genèse 17. Lorsque Abraham, ce patriarche, donc Genèse 17, verset 3, est entré dans la présence de Dieu et que le Seigneur lui a parlé et s'est révélé à lui comme le Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé sur sa face. Ce grand serviteur de Dieu n'a pas pu tenir en présence de Dieu, bien qu'il ait déjà servi fidèlement pendant 25 ans. Mais lorsque Dieu est entré dans sa présence, il est tombé parce qu'il ne pouvait pas tenir en la présence de Dieu. Dans Exode 3, nous trouvons que Moïse, le grand serviteur de Moïse, le grand serviteur et prophète de Dieu, lorsqu'il était là dans le désert, avant d'en sortir, il était né dans un but destiné à être prophète dès le ventre de sa mère. Il a essayé par la formation, par tout, de libérer son peuple, car il avait compris qu'il y était destiné. Mais la formation théologique ne lui a pas servi. Il était très instruit. Il a même pu enseigner la sagesse aux Égyptiens. Il savait le dedans et dehors. Il connaissait l'écriture de A à Z. Il connaissait les promesses que Dieu avait faites. Mais tout cela avec son intelligence. Jusque-là, c'était un grand homme militaire. Mais un jour, là, dans le désert, il est entré dans la présence de Dieu. Il a enlevé ses chaussures. Il savait, je me tiens sur une terre sainte. Il n'a pas pu tenir bon lorsqu'il était en présence de Dieu. Il est tombé comme Abraham sur sa face, en présence de Dieu. Dans Exode 19, verset 19, lorsque le peuple élu de Dieu était sorti, et nous savons que c'était par Abraham, Isaac et Jacob, puis les patriarches, et des années passèrent, mais c'était des hommes saints, de grands hommes, un peuple élu, un peuple sanctifié pour le Seigneur. Ils ont servi Dieu toute leur vie. Et un jour, Dieu dit, rassemble Israël, je vais leur parler. Et lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï et que toute la montagne était en feu et que la fumée montait comme d'une grande fournaise et que la voix de Dieu tonnait, alors le peuple a dit, laisse Moïse parler et non Dieu, sinon nous mourrons. Les hommes en présence de Dieu, où les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ils étaient tous circoncis selon la loi, ils ont gardé les commandements. Mais quand Dieu a parlé et qu'ils étaient en sa présence, ils ont réalisé qu'ils ne pourraient pas tenir. Il leur manquait quelque chose. Ils ne pouvaient pas tenir. Oui, ils ont dit, laisse parler Moïse et non Dieu, car si Dieu continue à parler, nous devons tous mourir, que Moïse nous parle. C'est dans Luc 5, au verset 8, quand Pierre, lui qui était si têtu et un homme de grande influence, et comme nous le comprenons aujourd'hui, il avait une bonne réputation, un pécheur connu de son temps, quand il a vu le miracle de Dieu qu'un simple homme a fait. Ça avait l'air comme ça, mais il savait que ça devait être plus qu'un homme qui avait mis tous ses poissons dans le filet parce qu'ils avaient pêché toute la nuit. Il n'avait rien pris. Mais ensuite, il entendit quelqu'un dire, jetez le filet à droite. Et alors, ils avaient pris une grande quantité de poissons. Il s'est rendu compte qu'il était un homme pécheur et pécheur. Et a dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Qui a dit cela? C'est Pierre qui l'a dit, en présence du Seigneur. Il a demandé au Seigneur, va, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je suis un pécheur. Abraham s'est reconnu de la même manière. Adam s'est reconnu de la même manière. Chacun des fils de Dieu, Moïse s'est reconnu de la même manière. Israël, en tant que nation, en tant qu'assemblée, s'est reconnu comme perverti. Retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il n'a pas essayé de dire, je suis de valeur, je suis saint. Non, je suis un homme pécheur. Et un jour, un pharisien, avec tout son savoir, il était assis au pied de Gamaliel. Son nom était Saül de Tarse. Et pardon, Saul de Tarse. Nous le connaissons sous le nom de Paul, religieux, jusqu'au bout. Il était le pharisien des pharisiens et l'hébreu des hébreux. C'était un homme connu, un érudit. Il était intelligent, instruit, et il pensait servir Dieu depuis son enfance. Mais un jour, sur le chemin de Damas, la colonne de feu s'abattit sur lui. Il tomba sur sa face, il était dans la poussière et s'écria, « Seigneur, qui es-tu? Que dois-je faire ?» Tout son grand entraînement, toute sa théologie, toute sa formation ne signifiait plus rien lorsqu'il se tenait en présence du Seigneur. Je voudrais dire ici aujourd'hui, vous avez peut-être reçu des distinctions de différentes sortes, des diplômes. Vous êtes peut-être allé à l'église depuis votre enfance. Vous avez peut-être subi tous les actes religieux. Je vous le dis, en présence de Dieu, vous saurez qui vous êtes vraiment. Il s'est rendu compte qu'il était perverti. Et il est tombé par terre sous l'influence et la puissance qu'il a rencontrée. Et il sut que le même Dieu, le Seigneur qu'il poursuivait, qu'il persécutait, contre lequel il se dressait, c'était devant et était devant lui. C'était devant lui qu'il devait s'incliner et se prosterner. Maintenant, il était en présence de Dieu. Il voyait la colonne de feu. Qu'en est-il de Jean qui a eu la révélation lorsqu'il a vu les visions? Il a entendu une voix qui lui parlait et il s'est retourné pour voir la voix. Et il a vu 7 chandeliers d'or et l'un et celui qui marchait au milieu d'eux. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme la laine, ses yeux comme des flammes de feu, ses pieds comme des colonnes de feu. Et il était ceint d'une ceinture d'or sur sa poitrine. Et quand Jean, qui avait marché avec Christ, qui s'était appuyé sur sa poitrine et qui avait vu et entendu toutes ces choses. Et ce Jean-là qui avait marché avec Jésus, qui avait parlé avec lui, qui avait mangé avec lui, qui avait dormi avec lui, quand il l'a vu là maintenant dans son état glorieux, il est tombé comme un mort. Le même homme. Réfléchissez à cela. Nous pouvons venir à l'église. Nous pouvons louer Dieu, mais frère, quand vous verrez qu'il vient, quelque chose sera différent pour nous. Nous pouvons penser que nous avons tout fait, que nous avons payé la dîme, que nous avons offert l'offrande, que nous sommes venus au service divin et que nous connaissons tout cela. Mais quand vous le verrez, tout changera. Oui, cela arrivera. Ce grand homme, Jean, un tel homme dont la Bible dit ici, Apocalypse 1, verset 7, il est tombé comme mort à ses pieds. À ses pieds. Après avoir été en communion avec Christ pendant 3 ans et demi et avoir été l'un des rédacteurs de l'Épître et s'être assis à table avec lui, avoir dormi avec lui, avoir été en communion avec lui, l'avoir accompagné partout où il allait. Et quand il l'a vu maintenant, la vie l'a quitté. Il est tombé comme un mort sur le sol. Eh bien, nous voyons ici Ésaïe dans ce chapitre, comme nous l'avons lu. Ce grand et puissant prophète, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Il y a 66 livres, 66 Bibles dans la Bible, et il y a 66 chapitres dans Ésaïe. Ésaïe commence depuis le début, comme s'il commencerait avec Moïse, avec la Genèse, et au milieu, il commence par le Nouveau Testament, et à la fin, il parle du royaume millénaire, du millénium. Regardez, c'est parfait. Ésaïe était l'un des principaux prophètes, mais il s'était appuyé sur Ozias, le roi, dans le temps. Et oui, c'était un homme bon et il était juste. Le roi, c'était un bon roi et il a reconnu qui était Ésaïe. Et Ésaïe a eu des visions, il était prophète, il prêchait la parole, il était prédicateur. C'était un homme saint, mais un jour, là-bas dans le temple, il est tombé, il a été pris en extase et il a vu la gloire de Dieu, il a vu les anges avec des ailes au-dessus du visage, avec des ailes au-dessus des jambes et avec les ailes, il volait en criant « Saint, Saint, Saint ». Saint, Saint est le Seigneur des armées. Le prophète reconnut, je ne suis rien. Il dit, malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Un prophète, un des plus puissants de la Bible, dans la Bible. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu la gloire de Dieu. Et quand les anges ont ainsi crié, Saint, Saint, les seuils, des portes ont tonné et tremblé. Mais le temps vient où non seulement les montants de la porte du temple, mais la terre entière sera ébranlée et les montagnes seront ébranlées. Et on dira, je suis le Seigneur, le Dieu de la terre. Et ils diront, cache-nous de la colère de celui qui est assis sur le trône. Ce sera un temps terrible. Amis pécheurs, s'il vous plaît, examinez-vous. C'est le moment. Eh bien, Ésaïe a dit, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et je veux dire que ces gens-là aussi ont des lèvres impures. Et si de tels saints hommes se reconnaissent saints, alors pécheurs en présence de Dieu, où demeurera le pécheur et l'impie en ce jour-là? Que feront les hommes qui se sont assis dans les réunions? Que feront-ils, eux qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont entendu le compte à rebours et qui ont vu Dieu révélé? Et sans l'ombre d'un doute, chaque écriture s'accomplit. Et ils essaient d'aller au ciel sans être nés de nouveau et sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Si le juste est à peine sauvé, où restera l'impie et le pécheur? Où pouvez-vous vous tenir lorsque nous verrons Dieu dans son épanouissement et que nous verrons la gloire de Dieu et vous continuez à avancer comme ça? Et si donc le prophète et d'autres se sont exclamés, je suis coupable, s'ils se sont exclamés et prosternés en disant, je suis un homme aux lèvres impures, qu'en sera-t-il de nous et de celui qui ne veut même pas confesser ses péchés? Qu'en est-il des jeunes qui ne confessent pas leurs péchés? Et qu'adviendra-t-il de ceux qui pensent en savoir plus de la création de Dieu que le Créateur lui-même? Qu'adviendra-t-il de celui qui essaye de réfuter et de contredire Dieu toute sa vie? Que lui arrivera-t-il? C'est l'évangélisation. Ça, c'est le temps d'ébranler les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé. Il a dit, Il a dit que le mont Sinaï sera ébranlé. Et il ébranle maintenant encore une fois. Il ébranlera tout ce qui peut être déplacé et ébranlé. Mais voyez ce que dit l'Écriture. Nous recevrons un royaume inébranlable. C'est ainsi que c'est écrit. Alléluia. Un royaume immobile. Tout ce qui peut être déplacé sera ébranlé. Le ciel sera ébranlé. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Car sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Tout ce qui peut être ébranlé le sera. Mais nous recevons un royaume que la parole de Dieu nous a promis et il ne peut pas être ébranlé. Amen. Oh, comme c'est merveilleux. Nous recevons un royaume qui ne peut pas être déplacé. Il est immobile. C'est ce qu'a dit Paul, le rédacteur des lettres aux Hébreux. Quel temps c'est. Regardez, nous aussi, nous avons vu la gloire de Dieu. Bien sûr, nous l'avons vu. Nous l'avons vu comme Abraham l'a vu. Nous l'avons vu comme Moïse l'a vu. La même colonne de feu. La même puissance de Dieu, le même Christ qui se dévoile, qui se révèle maintenant dans les derniers jours. Comment pourrions-nous venir et prendre les choses à la légère? Comment pourrions-nous encore nous accrocher au credo et aux donations et ensuite à la parole de Dieu? Que sera-t-il pour nous en ce jour-là? En ce jour-là, que ferons-nous après avoir vu la gloire de Dieu? Certains se tiennent là, ils rient, ils s'en moquent. D'autres disent, c'est du fanatisme. D'autres disent, c'est de la télépathie. D'autres disent, c'est Belzébuth. Et cela est désigné différemment. Et comme va le vieux problème, les fous vont là où les anges ont peur d'entrer. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Bien qu'il voit que Dieu se révèle si parfaitement selon sa parole, et ensuite il passe outre. Ce sont tout de même des insensés, car Dieu est dans sa parole, et sa parole est toujours claire pour ceux qui la reçoivent et qui l'acceptent. Que se passera-t-il quand ces gens devront répondre à ceux qui sont passés à côté? Ce sera terrible pour le méchant, ce sera terrible pour le méchant. Ô pécheur, répentez-vous. Voyez, un pécheur qui se répand, il sait que c'est un sacrifice sanglant qui a été offert pour lui. Et cela nous donne la consolation. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai ressenti sa puissance. Je connais le contact de sa main. Je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il ne se passe rien avec moi. Mais je sais qu'il se tient pour moi et qu'il dit, Père, tu as fait retomber sur moi toutes ces fautes et je peux maintenant venir librement au trône de la grâce car je sais que c'est uniquement grâce à sa miséricorde et sa grâce que j'ai pu venir à lui, non pas par ce que j'ai fait, par des œuvres ou d'autres choses, mais par sa grâce. Le poète a déjà dit et a dit comme il est doux le son, il a sauvé un rien comme moi. Jadis, j'étais aveugle, maintenant je vois. Comment pouviez-vous aller au ciel? Ce n'était pas possible, mais quelqu'un a ouvert la voie. Il est le chemin. Et comment y allons-nous? Par un seul esprit, son esprit. Nous sommes baptisés en un seul corps, et ce corps sera ressuscité sur toute la terre et enlevé en ces derniers jours. Amen. Bien sûr. Mais ceux qui se sont répandus n'ont pas besoin de s'inquiéter. Maintenant, quand nous sommes entrés dans sa présence et que nous savons que nous sommes en sa présence, nous voyons qu'il fait ce qu'il a fait quand il était sur terre. Voyez, comment reconnaissez-vous l'arbre? C'est par le fruit. Comment reconnaissez-vous la vraie église? C'est par le fruit. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il dit, ceux qui croient seront suivi par ces signes. Voyez, il n'a pas dit que nous devions construire des dénominations. Il n'a pas dit que nous devions établir des statuts et des credos et de foi. Non, au contraire, il nous a mis en garde. Il a dit que celui qui enlève ou ajoute sa part sera prise de l'arbre de vie. Voici, nous ne devons pas faire ces choses, mais nous devons demeurer dans la parole. Et si un homme est envoyé par Dieu, il demeurera à la parole, dans la parole, car Dieu ne peut demeurer qu'avec la parole. Il demeure avec sa parole. Et si nous entrons dans sa présence, et si quelqu'un entre dans sa présence, il est transformé pour toujours. Vous ne le reconnaissez plus. Voyez, il y en a qui entrent dans la présence de Dieu. Il ne s'en préoccupe pas. Il n'était pas destiné à la vie éternelle. Mais si quelqu'un est destiné à la vie éternelle et vient en sa présence, il est transformé. Vous voyez, la prostituée de Samarie, autrefois, elle était en mauvaise posture dans sa tête et dans son corps. Mais lorsqu'elle vit et parla à cet homme, puis elle dit, « Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout. Qui es-tu? » Et il répondit, « C'est moi qui te parle. » Et elle n'avait plus de questions, mais elle savait que maintenant la responsabilité est sur moi. Je suis entré dans la présence de Dieu. J'ai la responsabilité d'en parler aux autres. Alléluia. C'est vrai. Toute personne qui vient dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu de le dire aux autres à partir de cette minute. Regardez Abraham. Regardez Moïse. Regardez Pierre. Paul. Au moment où ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils se sont reconnus pécheurs. Et ils ont scellé leur témoignage de leur vie. Regardez cette femme. Elle est entrée dans la ville. et a dit, venez voir qui j'ai trouvé. N'est-ce pas le Messie? Elle ne pouvait pas le nier. C'était conformément aux Écritures. Voyez, si nous avons une responsabilité, disons-le aux autres, Paul, Pierre, tous, après avoir vu, entendu et après, et être venu dans sa présence, tous, donc vous êtes responsables du message. Vous êtes responsables de le dire aux autres. Vous ne pouvez plus vous asseoir tranquillement avec cela. Vous devez le porter aux autres. Je pense à une vieille sœur qui était ici, la mère de frère Snelling. Et elle chantait toujours, « Je viens de revenir et j'ai couru dans tous les sens. Je me suis assise et j'ai commencé à courir. Et j'ai recommencé à courir pour dire ce dont mon cœur est rempli. » Et puis je pense à une église de noirs à Louisville. Et là, il chantait, « Je cours sur le au chemin du roi. » Je vous le dis, quand vous aurez trouvé Christ, vous ne pourrez plus rester tranquille. Vous êtes une personne transformée. Vous devez en témoigner. Regardez, car lorsque la lumière et la lumière se rencontrent, il y a de la lumière. Lorsque l'ampoule est associée à l'électricité, elle doit produire de la lumière. Rien ne peut l'arrêter. La lumière jaillit. Cela doit se produire. Et si un homme, une femme est prédestiné à la vie éternelle et qu'il voit le courant de Dieu arriver et qu'il est allumé, alors la lumière se fait. Peut-être que vous n'avez pas 500 watts, peut-être que vous avez seulement 10 watts, mais laissez briller la lumière qui vous a été donnée. Donnez votre lumière et faites-la briller. Faites-la briller devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et louent le Père qui est au ciel, qui est aux cieux. Bien sûr, lorsqu'un homme entre en contact avec Dieu, il se reconnaît comme n'étant pas bon. Comment quelqu'un pourrait-il venir en sa présence et dire, je suis si bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors qu'il n'est rien, il n'est rien du tout dès le commencement, dès le début. Un jour, j'étais à Memphis, Tennessee, et il y avait frère David qui avait une réunion de réveil là-bas. Et nous étions ensemble et nous sommes allés dans un colisée ou une galerie d'art. Et ils ont exposé différentes choses du monde entier là-bas. Et puis, ils avaient une chose. Ils ont déterminé la valeur d'un homme. Et il était écrit au-dessous que sa valeur totale était de 84 centimes. Ils ont calculé la composition du corps, tout. Le résultat d'un être humain est en dessous. Il y avait 84 centimes. Des hommes se tenaient à côté de nous et ils se disaient les uns aux autres, l'un à l'autre. J'aime, nous ne valons rien du tout. Qu'est-ce que 84 centimes? Et je leur ai dit, écoutez, si vous êtes rachetés par la puissance de Dieu, alors vous valez beaucoup. Vous voyez, les gens ont la responsabilité d'en parler aux autres. J'ai commencé jeune et j'y ai consacré toute ma vie. Et si j'avais 10 000 vies et que je disais toujours aux gens, parce que c'est la plus grande chose de notre vie, si vous lisez Ézéchiel 33, il est question d'une sentinelle assise sur la tour du garde. Et cet homme est responsable de toute la ville. Amen. Eh bien, il veille. Eh bien, et réveillez-vous sur votre responsabilité spirituelle. Cette sentinelle devait être un homme entraîné. Il devait savoir ce qu'il faisait. Car à n'importe quelle distance, aussi loin qu'il pouvait voir, il devait reconnaître l'ennemi. Et il devait le reconnaître à leur marche, à leur couleur, à la façon dont ils arrivaient, à tout ce que l'œil humain pouvait voir. Et cette sentinelle était toujours plus haut que tous les autres. Et Dieu lui a demandé de rendre des comptes. Sentinelle, quelle est l'heure de la nuit? Alléluia. Il en est ainsi des sentinelles de Dieu. Elles sont entraînées par la parole, avec la parole. S'il se présente quelque chose qui n'est pas conforme à l'Écriture, ils avertissent leur église. Et tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas de Dieu, comme on a aujourd'hui dans les églises, les gens dansent et toutes ces manifestations, c'est mal. On a différents jeux dans les églises, des jeux de cartes et d'autres jeux. Un vrai gardien qui a été une fois dans la présence de Dieu parlera contre cela et reprendra. il reprendra. Voyez, il devait être plus haut, comme toute l'assemblée, pour pouvoir monter afin de voir loin, pour pouvoir ensuite donner la réponse au troupeau. Un homme de Dieu qui se tient en présence de Dieu, il sait que Dieu tient sa parole et qu'il témoigne et qu'il se témoigne et qu'il se témoigne. Et s'il fait tout ce qu'il doit faire, Dieu fera le reste. Peu importe ce que les organisations disent ou font, il sait et il frappera l'ennemi. Amen. Il sait ce qu'il doit dire à l'église, un vrai gardien. Si nous, un vrai gardien, si nous avons confessé et que nous étions en sa présence et que nous avons confessé nos péchés et qu'ils sont effacés, même de sa mémoire, seul Dieu est capable de le faire. Si vous faites quelque chose contre moi et je vous pardonne, mais je m'en souviens, si je vous ai fait du mal, vous me pardonnez, mais vous y pensez. Mais Dieu peut pardonner et oublier. Oh, réfléchissez à cela. Il n'y pense plus. Amen. Cela me fait me sentir bien. Dieu n'y pense plus. C'est fini. Il n'y pense plus jamais. Seul Dieu a cette caractéristique. Il l'a effacé. Même il n'est plus... Mais cela n'est plus là. Vous ne pouvez pas. Je ne le peux pas. Car nous pensons aux choses. Mais lui est le Dieu infini. Il peut absolument oublier que cela a été fait. Amen. Une jeune femme qui venait d'une église rurale et dont le père était un homme d'âge mûr qui aimait pousser des cris de joie et louer Dieu. Et donc avancée en âge, hein, et elle s'en alla. Et alors elle déménagea à la ville, puis se mit à fréquenter les femmes de la ville, les femmes de l'église, et cet homme ne connaissait rien d'autre que de prendre son petit déjeuner, de lire la Bible, de prier, de pleurer, de louer, de glorifier. Et il était un peu mobile avec ça, et parfois même quand il ne pouvait pas dormir, il lisait, et puis il se levait en criant « Gloire à Dieu, alléluia, louange à Dieu ». Parfois il tapait du pied assez fort, et puis le jour est venu où elle a pris le thé avec les femmes de l'église. Et elle ne savait pas quoi faire de son père. C'était son père et elle avait décidé de le mettre au premier étage. Et elle a alors dit, « Père, tu ne veux pas être ici avec toutes ces femmes. » ?»« Non, je ne veux pas être là », a répondu le grand-père. Et puis elle a dit, « Écoute, nous avons eu une petite réunion de prière ici. Pourquoi tu ne montes pas à l'étage ?» Et il a dit, « Bien sûr, je peux le faire. » Il a dit, bien sûr, je peux le faire. Et elle a dit, voilà un livre. Lis-le, c'est sur la géographie. Elle lui a pris la Bible et elle a dit, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la Bible. Lis ce livre. Elle pensait ainsi qu'il sera au moins tranquille. Car lorsqu'il lit la Bible, il ne cesse de hausser le ton, d'exulter là-haut, de louer. Et cela, elle ne voulait pas le faire en présence. Elle ne voulait pas que cela se passe en présence de toutes ces femmes chez elle. Et elle a dit, père, ce livre te dit toute la vérité sur le monde entier. Il te suffit de le lire et de rester silencieux. Et il dit, oui, compte là-dessus, ne t'inquiète pas, je vais monter. Et il discutait là à la partie de thé, il parlait d'un tel et de ceci et de cela, ils avaient quelque chose à dire ici, chacun parlait. Et tout à coup, l'homme s'est mis à pousser des cris de joie. Le plafond a commencé à s'effondrer et il a tapé des pieds en criant « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu !» Les femmes se regardèrent et dirent « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il descendit les escaliers aussi vite qu'il le pouvait et elle lui a dit « Mais père, je t'ai donné un livre de géographie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il dit « Oui, dit-il, j'ai lu ici dans ce livre que tu m'as donné qu'il y a des endroits dans la mer où ils ne peuvent pas atteindre le sol. » Il a dit, gloire à Dieu, je sais ce que cela signifie pour moi, car c'est là que le Seigneur a jeté mes péchés. Dans la mer, là où elle est la plus profonde, là où il n'y a pas de fond, là où ils sont simplement partis pour toujours. Et il s'est mis à louer et à exulter. Et vous voyez, c'est ainsi. Dieu a jeté nos péchés dans la mer de l'oubli. Ils n'ont jamais été depuis devant lui. Oh, comme c'est merveilleux. Et alors nous nous tenons dans la présence de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi saint qu'il est. Car il ne me voit pas quand je viens là. Non, il voit son propre Fils. Il ne peut pas me voir car je suis dans son Fils. Et il ne voit que son Fils. N'est-ce pas merveilleux? Alors, vous n'avez plus besoin de penser au péché. Tout est sous le sang. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. C'est retiré de la mémoire de Dieu. Il n'y pense plus. Esaïe, le puissant prophète, il a confessé son péché et dit, « Meilleur, malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, un prophète, un homme aux lèvres impures. Et mon église est impure, mon assemblée est impure. Les gens à qui j'ai prêché, ils sont impurs, je suis impur. Et malheur à moi. » Mais maintenant, il vit les anges et ils crièrent, « Saint, saint !» Et il vit que le bord de son vêtement remplissait l'espace. Et des anges qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce qu'est le péché. Et là, en présence de Dieu, ils ont couvert leur visage de deux de leurs ailes et ont crié, « Saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. » Oh, alors, vous vous sentirez certainement pas saint. Eh bien, que fit-il? Il a dit, « Malheur à moi. Je suis perdu. » Et quand il a confessé son péché, l'ange s'est avancé, a pris la pince et a pris le charbon. Et ce charbon représentait le baptême d'esprit et de feu. Et quand il toucha ses lèvres avec, il a dit, « Maintenant, tu es pur. » Et c'était comme si son rideau du temps s'était levé et qu'il avait entendu la voix. « Qui ira pour nous? Qui sera notre messager ?» Vous voyez? Et là, la réponse est, « Me voici, envoie-moi. » Il était en présence de Dieu, avait confessé son péché, avait été purifié de son péché et était prêt pour le ministère. Amen. Comme l'a dit le poète, des millions meurent dans le péché et la honte. Ils écoutent leur dernier appel. Hâte-toi, mon frère, hâte-toi de les aider. Et dis, maître, me voici. Quand je pense à l'Afrique, à l'Inde, au monde entier, des millions de païens, ils crient, grâce, qui ira? Ce n'est pas un tract. Ou alors une brochure, mais Jésus-Christ lui-même qui doit leur être apporté. Quelqu'un qui soit en sa présence, comme Moïse qui pouvait leur donner la délivrance. Pas une adhésion à une église, mais une libération pour l'âme. Quelqu'un, un homme de Dieu. Eh bien, Esaïe a confessé son péché et a été purifié après que Jacob eut lutté avec Dieu toute la nuit et confessé son péché. Vous vous rappelez que cela s'appelait Pniel et que ce mot signifie en hébreu la face du Dieu Tout-Puissant. Pniel. Jacob, c'était un imposteur. Vous savez ce que signifie son nom, trompeur. Et tout au long de sa vie, donc tout au long de sa vie, il s'est éloigné de Dieu. Mais ensuite, il était en présence de Dieu. Et en sa présence, il a saisi le Seigneur et ne l'a plus lâché. Il s'est tenu fermement en présence de Dieu. Et il est resté avec lui jusqu'à ce que le soleil se lève et que le Seigneur dise, laisse-moi partir. Il resta là et dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Il s'en alla justifié comme la chose était grande. Eh bien, il a persévéré. Il a vu des signes de Dieu, il a fait des songes, mais maintenant, il était en présence de Dieu, devant sa face. Réfléchissez à cela, mes amis, pendant que nous nous dépêchons en présence de Dieu, un homme est transformé, changé. Jacob a été changé. Maintenant, il pouvait marcher avec Dieu. Maintenant, il était différent. Le combat était terminé. Il était changé, il était transformé. Et il a construit un hôtel. Voici, Ce que je vous dis, quand vous êtes entré dans la présence de Dieu, vous voulez construire un autel. Vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez prier. Il a été purifié. Et Jacob a été transformé. Avant, il était un imposteur. Maintenant, Jacob était un Israël, un prince de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec lui. C'est ce qui lui est arrivé. Il était un imposteur, un surintendant, un injuste, un impie, un trompeur et un séducteur. Il a usurpé le droit d'aînesse. Il a fait d'une mauvaise manière. Il a trompé tous ceux qui ne faisaient que passer sur son chemin. Il a trompé son beau-père. Il a trompé son père, sa mère. Il les a tous trompés. Partout où il allait, il trichait. Mais il était toujours en train de fuir Dieu. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il s'est reconnu pécheur. Et que fit-il? Il a vu son opportunité. Il a rencontré celui qui il ne savait pas si cela lui serait accordé encore. Mais il est resté là jusqu'à ce que son péché soit effacé. Dieu l'a pris dans sa présence. Dieu a une façon de prendre les gens en sa présence. Certains s'éloignent de lui, d'autres vont à lui. Certains disent qu'il n'y a rien et s'en vont. Non, mais celui qui confesse ses péchés, ils lui seront pardonnés. Celui qui les couvre, ils ne leur seront pas pardonnés. Jacob, le lendemain, parti à la rencontre d'Ésaü, il n'avait plus besoin d'aide. Non, il n'avait pas besoin d'une armée. Non, il avait construit l'autel et fait confiance à Dieu. Maintenant, il n'avait plus peur d'Ésaü. Au psaume 16, 8, David dit, « J'ai l'Éternel devant les yeux en tout temps. » Psaume 16, verset 8, « Le Seigneur est devant mes yeux en tout temps. » Voici, qui n'était plus dans la confusion. Il voulait être certain que la présence de Dieu était avec lui. David a dit, « Le Seigneur est devant moi en tout temps. » Eh bien, moi, David, j'ai toujours le Seigneur devant moi. Il est toujours sûr de cela. Toujours sûr de la présence de Dieu. N'est-ce pas une leçon pour nous tous que de mettre le Seigneur devant nous afin d'être sûr de sa présence? Mettez-le en première place, en premier devant vous. Et alors, vous ne pécherez pas. Si vous connaissez que vous êtes continuellement en présence de Dieu, si vous savez que Dieu est autour de vous, vous ferez attention à ce que vous dites. Un homme, s'il pense que Dieu n'est pas là, aura envie des femmes, il volera, il trompera, il mentira, il fera n'importe quoi s'il pense que Dieu ne le voit pas. Mais mettez-les en présence de Dieu et là, tout s'arrêtera. David a dit, j'ai toujours mis le Seigneur devant moi. C'est une bonne chose. Il n'est pas étonnant que Dieu ait dit, c'est un homme selon mon cœur. Les gens font n'importe quoi quand ils pensent que Dieu ne les voit pas. Mais quand ils réalisent que Dieu est proche, ils se reconnaissent comme pécheurs. Même les pécheurs doivent s'excuser en présence de ceux qui sont sanctifiés. Ils ne raconteront pas de blagues sales. Non, ils cesseront de le faire. Car ils savent qu'ils sont dans la présence de Dieu. Car Dieu habite parmi son peuple, dans son peuple. Voyez David, il dit alors que mon cœur se réjouisse. Que mon cœur exulte et que ma chair se repose dans l'espérance. Pourquoi? Mon cœur se réjouira car j'ai toujours Dieu devant moi et ma chair sera dans l'espérance. Si je meurs, je ressusciterai car il ne livrera pas mon âme au séjour des morts. Il n'admettra pas que son saint voit la corruption. Vous voyez, il était continuellement en présence de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Voyez, Église, je vous aime. Je veux que vous m'écoutiez. J'ai encore quelque chose à dire. Que le Seigneur soit constamment placé devant vos yeux. Ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence, car il veille sur vous. Le Seigneur entoure ceux qui le craignent. Il est proche de vous. Il sait tout ce que vous faites et vous devez le comprendre et le savoir. Et si vous commencez à dire un mensonge, arrêtez, le Seigneur vous entend. Si vous essayez de faire une fraude, arrêtez, le Seigneur vous voit. Si vous essayez d'abuser de son nom, ne le faites pas. Si vous essayez de fumer, ne le faites pas. Il veille sur vous. Voyez, nous avons chanté un chant. Sur le chemin, il y a un œil qui veille sur moi. Sur vous. Maintenant, faites comme David, que le Seigneur soit constamment placé devant vos yeux. Alors vous serez dans l'allégresse et votre chair reposera dans l'espérance. Oui, il savait qu'il ressusciterait, car Dieu l'a promis. Maintenant, quand nous venons en sa présence, nous sommes transformés. Nous ne sommes plus les mêmes à travers tous les âges, tous les hommes de toutes conditions. Regardez Abraham. Maintenant, vous pensez seulement que les prédicateurs ont une vie transformée. Non, pas seulement les prédicateurs. Tous les croyants, de la même manière. Abraham était un fermier. Mais quand il a entendu la voix de Dieu parler et vu la vision, il était un homme transformé. Dès l'instant, il s'est isolé de ses parents, de ses connaissances, et il est sorti comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il a habité sous des tentes, car il a confessé qu'il cherchait la ville dont Dieu est le bâtisseur. Il savait que Dieu était là et qu'il servait le Dieu qui bâtit cette ville. Et c'est cette ville qu'il a cherchée. C'était un homme transformé, alors qu'il n'était rien de plus qu'un fermier. Et il a vu la vision, il était en présence de Dieu. Et transformé, changé. Moïse était un berger. Mais il était ensuite un homme transformé lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu. Avant, il était un lâche. Il s'enfuyait loin de Pharaon. Mais ensuite, avec un bâton à la main, il a fait sortir tout le peuple d'Israël. Pourquoi? En présence. Il était en présence de Dieu. Il était un homme transformé. Pierre, un pêcheur. Il ne savait rien d'autre de Dieu que ce qu'on lui avait dit. Il savait seulement comment attraper des poissons. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a vu qu'il lui disait, « Jetez vos filets à droite. » Et il répondit, « C'est ta parole, nous le ferons. » Et tu l'as dit, « Nous le ferons sur ta parole. » Et ils ont baissé les filets, puis ils ont commencé à tirer. Et il a dit, « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » Il n'était plus le même. Non. Regardez, on lui a alors donné les clés du royaume des cieux. Paul, un pharisien rigide, formé à la religion de l'époque et érudit, l'un des chefs des savants. Mais alors, quand il a vu la colonne de feu devant le Dieu qu'il persécutait, dans l'ignorance, il était un pharisien, il ne croyait pas que Dieu puisse se révéler comme un homme. Oui, mais alors, quand il a vu la colonne de feu et entendu « Je suis Jésus », il a su ce que c'était. Et la réponse fut « Je suis Jésus que tu persécutes ». Regardez. Et plus tard, il a pu dire « Comment avez-vous été baptisé ?» Il était dans la présence de Dieu. Il était transformé depuis ce jour-là dans la présence de Dieu. Le Seigneur transforme. Finet, un avocat. Là-bas, à Philadelphie. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a tout abandonné et est devenu le prédicateur le plus puissant de cette nation. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, je suis un prédicateur. Et donc, on est venu voir Finet et on lui a dit, tu es un prédicateur puissant, mais tu as besoin du baptême de cet esprit. C'était une heure de prière à laquelle assistaient surtout des femmes et on lui a encore dit, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Et elles ont dit, prie donc une fois à ce sujet. Et puis le temps est venu pour lui de le présenter à Dieu dans la prière. Et il a dit, ah Seigneur, mon Dieu, que vais-je faire? Et il est entré alors dans la présence de Dieu et a réalisé qu'il y avait un but. Et les larmes ont coulé. Et il s'est dit, peut-être que ces femmes ont raison de me dire de prier pour le baptême de l'Esprit. Et je me suis dit que maintenant, on m'avait vu prier ici et que je n'aurais pas honte de parler à mon patron. Et pourquoi devrais-je avoir honte de parler à Dieu? Et puis, il est allé dans son bureau et a dit, « Seigneur, aie pitié de moi, je suis si lâche, j'ai eu honte de prier et d'être vu. » Mais quand il s'est retrouvé en présence de Dieu, il a été transformé. Il a prononcé les mêmes sermons, mais des âmes sont venues à Jésus. Il était en présence de Dieu, maudit. Un vieux cordonnier connaissait à peine l'alphabet. Sa grammaire était très pauvre. Avait beaucoup de lacunes. Mais quelqu'un le lui a même dit et il a répondu, « Mais je gagne des âmes grâce à cela. » Et puis le journal est venu le voir et on lui a écrit. On a écrit, « Comment cet homme peut-il attirer de telles foules ? Il est chauve, sa barbe tombe et il a un ventre qui pend devant lui. » Il a l'air terrible. Et le journal l'a pris comme ça entre deux et ils ont écrit, « Nous ne voyons pas comment quelqu'un pourrait aller là-bas. Que voit-il dans ce Joyce maudit ? Il a mauvaise mine, sa voix est criarde et sa barbe pendouille et il est chauve comme une citrouille. Et comment quelqu'un va-t-il le voir ? Et le manager de maudit vient le lire. Parce que maudit ne pouvait pas le lire lui-même. Et il dit, oh, maudit a haussé les épaules. Il a dit, c'est clair, ils ne viennent pas pour me voir, ils viennent pour voir le Christ. Oui, il était en présence de Dieu. Et il n'a plus fait de chaussures. Mais il a maintenant chaussé les gens pour qu'ils aillent annoncer l'évangile de paix. Pourquoi? Il était en présence de Dieu. Regardez comme la femme à l'époque, quand elle est venue dans la présence de Dieu, à ce moment, là, cela s'est produit. Elle a réalisé qu'elle était en présence de Dieu. Tout péché était pardonné. Et elle était aussi blanche qu'un lys. Je pourrais en dire beaucoup plus. Le temps ne me le permet pas. Peut-être devrais-je dire quelque chose sur moi maintenant. Qui aurait pu être plus bas que moi? Où étais-je? Je viens d'une famille de gens qui ont bu. Et maintenant, ils énumèrent toutes les mauvaises choses, mais nous les connaissons tous de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et même quand j'allais à la ville et que je voulais parler à quelqu'un, personne ne voulait avoir affaire à moi. Et je me suis dit, pourquoi tout cela? Mais un jour, je suis entré dans la présence de Dieu. Il m'a transformé et il a fait de moi un autre fils. Sa grâce m'a fait entrer dans sa présence. Je ne voulais plus la quitter. Maintenant, j'y suis depuis plus de 30 ans. Je ne veux jamais la quitter. J'ai la certitude que je serai toujours en sa présence. Même la mort ne m'en séparera pas. Je serai avec lui pour toujours, pour toute éternité. La première fois que j'ai vu sa présence, j'ai pleuré et crié comme Ésaïe. Et puis il m'a touché dans sa grâce. J'étais changé. L'homme mauvais a été transformé, changé, et depuis je suis son enfant. J'ai un désir de mettre toute ma vie à son service. Si je pouvais avoir 10 000 vies, je les lui donnerais toutes. Cette vie est déjà presque épuisée. Déjà plus de 53 ans et déjà bien 32 ont été consacrés à l'Évangile. J'aimerais en avoir encore 1 000, car si vous venez une fois en sa présence, c'est lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un que personne ne voulait aimer est maintenant aimé du Dieu Tout-Puissant. Personne ne prenait soin de moi. Maintenant, Dieu prend soin de moi. J'ai mis mes bras autour de sa croix et nous sommes devenus un. Je l'ai aimé depuis et il m'a rempli et il est tout ce dont j'ai besoin. Je suis heureux d'être l'un des siens ce soir. Et si le tentateur devait tout mettre en œuvre, non, dans sa grâce, je vivrai. Je vis pour mon Dieu. Mon cœur exulte. Et je voudrais le recommander à chacun. Vous qui êtes plein de soucis, vous qui avez des besoins, vous qui ne l'avez pas encore entendu, confessez-lui vos péchés. Dites-lui ce que vous avez fait de mal et venez à lui et vous verrez que le Saint-Esprit agira sur vous. et vous vous exclamerez, « Seigneur, me voici, emporte-moi, prends-moi. » Vous pourrez alors dire, « Envoie-moi, je suis prêt. » Alors vous pourrez chanter, « je le louerai, louer l'Éternel qui a été immolé pour les pécheurs. » Et lui rendre grâce, lui apporter la reconnaissance, car son sang nous a lavé de toute tâche. Vivre en sa présence. Je suis venu ici aujourd'hui, à la tribune. Je me suis senti si mal. Et j'étais en contact. J'étais au Kentucky avec des amis personnels. Et si j'étais resté là longtemps, ils m'auraient tué. Mais par leur bonté, bien sûr. Il y avait là les meilleurs cuisiniers que j'ai jamais vus dans ma vie. Et j'étais presque surchargé. L'une disait, « Frère Branham, ne veux-tu pas encore manger ici? Veux-tu encore manger ici? » Ici, oui, nous avons préparé ceci. J'avais tellement mangé que je ne pouvais presque plus bouger. Il aurait fallu me porter bientôt. Et c'est pourquoi je ne me sentais plus bien. Mais quand j'arrive en sa présence, tout est différent. Tout est fait, tout est fini. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, vive en sa présence. Je le louerai. Je le louerai. Louer l'agneau qui a été immolé pour les pécheurs. Rendez-lui gloire, vous tous les hommes. Car son sang a lavé tout. Tâche. Inclinons maintenant nos têtes. Oh, il a tant fait pour moi. Il a pardonné toutes mes transgressions. Ton sang a lavé tous mes péchés. Je veux le louer. Je veux le louer. Louer l'agneau immolé pour les pécheurs. Rendez-lui gloire, vous tous les hommes, car son sang a lavé toute tâche. Je le louerai. Si vous êtes ici ce soir, et je sais que sa présence est ici, je me tenais là, là-bas, et il y avait une fille de l'église, de l'Assemblée de Dieu ici. Et le Saint-Esprit agissait à travers moi et les parents étaient venus de l'Assemblée de Dieu et le chef là-bas, il le savait et il le sait. La fille a une leucémie et le médecin a dit qu'elle ne peut plus vivre. Elle était déjà enflée et tout déjà était bleu à cause de tous les vaccins et tout ça. Et les parents avaient juste lu un livre et ils ont senti. Et ils se sont sentis guidés à venir et le Saint-Esprit a fait ressortir le passé de l'enfant, ce qui était arrivé. Et j'ai dit comme la fillette, Fillette aimait jouer du piano et comment la mère confirmait tout ce qui avait été dit. Ils sont ici maintenant, ils entendent, les parents sont assis dans la voiture et soudain, j'ai vu une ombre au-dessus de l'enfant et j'ai dit, Satan, tu es vaincu. Et j'ai dit qu'avec Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. En tant que serviteur de Dieu, j'ordonne à Satan de quitter cet enfant et une lumière est descendue et tout était fini. Oh Dieu est digne de toutes les louanges. Il sait toutes choses. Il connaît votre cœur. Il sait ce que vous pensez. Il le sait. Si le péché est encore là et que vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu avec, vous voulez le lui apporter et lever la main et dire, Frère Branham, prie pour moi, je veux être en sa présence ce jour-là sans culpabilité. Dieu le voit en sa présence. Je vais vous dire ce que vous devez faire. Écoutez, faites comme David. Placez-le devant vos yeux. Placez le Seigneur entre vous et le péché. Et que quoi que ce soit le péché, mensonge ou vol, ou mauvaise pensée ou agitation, ou quoi que ce soit, convoitise ou quoi que ce soit, placez le Seigneur devant vous. Et alors votre cœur se réjouira et votre chair sera dans l'espérance, car vous avez la promesse qu'il vous ressuscitera quand il viendra. Vous sortirez. Prions maintenant. Père Céleste, une prédication tronquée, apportée par un serviteur fatigué, mais je pense au thème demeuré en présence de Dieu, et nous voyons ce soir l'effet que cela a eu sur les saints hommes qui sont venus en ta présence, sur ceux qui ont été sanctifiés, de grands prophètes puissants désignés par Dieu pour annoncer la parole. Et pourtant, en sa présence, ils sont tombés comme morts. Que ferons-nous en ce jour, Seigneur? Nous y avons réfléchi. Il y a 40-50 mains levées. Ils ont reconnu que tu leur as parlé. Maintenant, ils ont l'occasion. Que feront-ils quand ils devront te rencontrer? Mes mains aussi sont levées. Que vais-je faire? Eh bien, Père, j'ai beaucoup de choses que je fais de travers. J'ai déjà confessé mes péchés ce matin. Seigneur, je te les ai confessés là sur la montagne, quand il y avait du vent et de la neige. Je te les ai confessés et je t'ai demandé de me pardonner toute ma folie. Et les frères qui me confesse comme ton prophète. Et à eux aussi, j'ai dû dire que j'ai fait une folie, mais tu es si bon pour mon âme. Je n'ai pas caché mes péchés. Je veux être sincère devant toi et devant le peuple. Je les ai confessés. Seigneur, je me suis trompé. Je te demande pardon. Je suis dans l'erreur. Et je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû le faire. Ah Seigneur, je confesse mon péché devant toi et je veux être purifié par je veux qu'il soit purifié par le sang de Jésus. D'autres mains sont levées. Il y en a peut-être qui n'ont jamais demandé le pardon. Si nous confessons nos péchés, Dieu les effacera et les jettera dans la mer de l'oubli. Il ne se souviendra plus d'eux. Père, j'ai confessé mes péchés. J'ai confessé que je ne me suis pas comporté comme il le fallait devant les hommes. Et je ne me suis pas comporté comme un serviteur de Dieu. J'ai pensé que l'homme serait méchant avec moi. Et je ne voulais pas les blesser. Mais je t'ai blessé, Seigneur. Et je te prie de me pardonner. Et maintenant, je te demande, si je te demande le pardon, je reçois ce pardon et tu le mets dans tu mets ce que j'ai fait dans la mer de l'oubli et tu ne t'en souviens plus. Je suis reconnaissant, Seigneur, et je te demande que tous ceux qui ont des péchés et qui sont entourés du péché, qui puissent s'en débarrasser et se placer devant eux, car maintenant nous t'invoquons et nous disons, malheur à moi, car je suis perdu, j'ai vu la gloire de Dieu, comme Isaïe l'a fait. Si un homme, un garçon, un homme, ou qui que vous soyez, une fille, quoi que vous soyez, nous sommes tous impurs. Nous demandons que le sang de Jésus-Christ, que le sacrifice par lequel nous sommes purifiés de tout péché, nous purifie. Seigneur, laisse-nous aller de l'avant, avec nos cœurs qui se réjouissent et nos cœurs qui reposent dans l'espérance, que nous sachions que lorsque Jésus viendra, nous serons avec lui. Et nous le rencontrerons lors de l'enlèvement. Et lorsqu'il viendra, alors nous voyons déjà les sept âges de l'Église tels qu'ils ont suivi leur cours. Seigneur, nous prions avant que tu ne fermes la porte. S'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas encore venu, qu'il entre vite, car nous sentons que le temps de la grâce va bientôt se fermer. Que ceux qui acceptent la grâce entrent. Ceux qui ne veulent pas entrer subiront le jugement. Dieu fermera la porte. Que la porte ne soit pas fermée aujourd'hui. Qu'ils viennent tous en tant que pécheurs et se confessent. Et qu'ils reçoivent le pardon et la grâce au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, je prie pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin. Que ta grâce leur donne tout. Qu'ils entrent maintenant en Christ, en sa présence. Et qu'ils placent Christ et les promesses devant eux. Il était blessé à cause de mes transgressions, à cause de mes péchés, de mon péché. Mais par ses meurtrissures, je suis guéri. Le Seigneur est devenu, est devant moi. Qu'il s'agisse de maladie ou de quoi que ce soit, je ne serai plus ému. Je vais hardiment confesser que je suis guéri par ses blessures. Je suis guéri, accorde le Seigneur à chacun. Et nous savons que si nous confessons du bout des lèvres et croyons du fond du cœur, nous avons déjà reçu ce dont nous avons besoin, selon nos désirs. Et il est écrit, si vous dites et croyez ce que vous prononcez, cela se fera. Nous croyons que tu nous purifies, de tout péché et que tu guéris toute infirmité. Et donne-nous la grâce, Seigneur, de te servir. Sois avec ces personnes. Beaucoup voyageront encore loin ce soir dans l'obscurité pendant plusieurs miles. Qu'aucun mal ne leur arrive. Ils viennent du pays pour entendre ici le compte à rebours, pour entendre combien nous sommes proches de la fin. Je te prie, Seigneur, d'être avec eux. Que Dieu soit devant eux tout le temps, avant que quelque chose n'arrive, avant le voyage, avant même qu'ils ne bougent, avant qu'ils ne se lèvent, avant qu'ils ne se couchent, que le Seigneur soit toujours devant eux, quoi qu'il arrive, car il est à ma droite et je ne serai pas ému. Je ne serai pas ébranlé. Que leur cœur se réjouisse d'avoir ce qu'ils ont demandé, car Dieu l'a promis, et que leur chair se repose dans l'espérance. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.